avec Macron dans une fusée, l'envoyer au bout de l'univers. Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder ou bien nous matraquer? Qu'on sait pas tout simplement nous gager. Macron est là pour nous emmerder. C'est pas un président comme les autres, il est encore mieux que les autres. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Va mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée. Parce que c'est le meilleur président. Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute. Il serait prêt d'aller sur la Lune, Jupiter sans fortune. Oui, on l'aime autant qu'il nous aime. C'est-à-dire qu'on l'aime et on l'aime même s'il ne veut pas. Oui, on est encore là sur le pas de lancement. La fusée n'attend pas.
Salut, Bajnet, bonjour, c'est la revue de presse du Monde Moderne du mardi 9 janvier 2024 et c'est pas Macron qui va être mis dans une fusée, mais apparemment, vu tout ce que disent les éditorialistes bien en cours, ce serait Gabriel Attal qui va être mis dans une fusée pour Matignon. Voilà, c'est le remaniement. Alors je sais, la plupart d'entre vous n'en ont strictement rien à foutre, puisque c'est Emmanuel Macron qui reste président et que la cinquième fait que il prend Borne, il vire Borne, il prend Attal, il le met en selle pour 2027 et puis la suite ce sera de l'histoire sans doute. Alors on va voir un peu ce que nous disent les titres de presse ce matin de ce remaniement. L'adieu à Elisabeth Borne, cette première ministre tant aimée, incarnation de la joie de vivre, de l'abnégation et aussi d'une certaine idée de ce qu'est l'État. 49-3, vapote à l'Assemblée nationale. On a fait, bien sûr, un petit medley des meilleurs moments d'Elisabeth Borne. Pour Gabriel Attal, c'est très simple. Hein. Il est bien né dans une famille extrêmement bourgeoise. Il voulait être acteur. Son papa lui a dit « travail ». Il a finalement été acteur et il se retrouve dans la Macronie après avoir grenouillé au PS dans le cabinet de Marisol Touraine en n'ayant rien fait à part passer à l'école alsacienne. Son CV, c'est le Bilderberg l'an dernier, très jeune pour le Bilderberg. Donc on sait qu'il est déjà choisi pour être un futur leader. comme on appelle nos maltraitants, par nos contrées où nous obéissons bien sagement. Et il est choisi donc pour incarner sans doute le dauphin d'Emmanuel Macron, ce roi qui ne dit pas son nom, président de la 5e. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On va faire le tour avec vous des titres. C'est la revue de presse du Monde Moderne. On est sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner également sur patreon.com/lemondemoderne. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Nous allons maintenant commencer à lire ces titres de presse incroyables du 9 janvier. Je ne vous cache pas que bon, Gabriel Attal... Ça va être compliqué. Non, parce qu'il n'a rien fait, à part le SNU. Et enfin, vous savez, mon amour du SNU, pardon, je me réveille un peu. Enfin, je suis réveillé depuis longtemps, mais j'ai du mal à croire à ce qui se passe, en fait. Le SNU, c'est quand même ce truc qui coûte plusieurs milliards par an pour rien, hein, pour expliquer aux jeunes ce que c'est que l'engagement, la laïcité, mais aussi le sens du devoir. La jeunesse macroniste, donc macronienne, comme vous voulez l'appeler, qui est là et qui a été montée de toutes pièces avec la complicité de Gabriel Attal, qui était très content d'être en uniforme. Il est passé à Bercy pendant un an, vous ne l'avez pas vu. Non, son seul fait d'armes à Bercy, c'est d'avoir effacé l'ardoise de quelques évadés fiscaux, pardon, optimisés fiscaux, en disant « bon, c'est cool, hein, tu nous en donnes un peu, comme ça, on t'embête pas. » Et on n'en parle pas dans les journaux. Très bien. Puis il est passé au ministère de l'Éducation nationale, poussé par, tout simplement, Emmanuel Macron, qui avait décidé que l'éducation était la priorité de ces deux quinquennats. C'est géré par Brigitte et Emmanuel à l'Élysée. Et il fallait donc une courroie de transmission pratique, celui qui doit tout à Emmanuel Macron, Gabriel Attal, avec ce plan de com' au millimètre, pensé dès le mois de juin pour qu'à la rentrée, pas d'abaya dans les écoles. Alors là, du coup, toute la droite, tous les gens qui aimaient bien un peu le retour de l'ordre, tout ça, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce jeune Attal !» Et voilà, on va draguer du vieux électeur macroniste avec du jeune Gabriel Attal. Ça fonctionne à merveille, vous rajoutez un peu de LCI, vous saupoudrez un peu avec du BFM, et ça fait... Ben, un homme politique qui prend des décisions à poigne, quelqu'un qui n'a pas peur. Bon, évidemment, il y avait quoi ? 700 abayas, même pas. Je crois que c'était moins que ça pour la rentrée. Ensuite, il y a toujours un manque cruel de professeurs. Ils sont toujours sous-payés. On ne parle pas, bien sûr, de l'assassinat par un djihadiste d'un autre professeur. Non, ça, c'est un mien. Sans compter le bilan toujours maigre des mesures Attal, hein, le choc des savoirs, on ne le verra pas si jamais il est nommé. Alors, visiblement, ce serait lui, vu comme la presse, regardez, s'est emparée pour expliquer que oui, c'est bien à lui. Regardez, c'est parti. Alors, comment que c'est que ça se passe ? Eh bien voilà, très simple. Macron ouvre un nouveau chapitre, c'est le Parisien aujourd'hui en France, journal qui appartient à Bernard Arnault. Si vous ne connaissez pas Bernard Arnault, c'est le patron de LVMH, c'est l'homme le plus riche de France et parfois du monde selon les classements. Il a distribué la plupart d'ailleurs des dividendes, on en parlait hier. Le CAC 40, c'est 5 entreprises qui distribuent la moitié, 30% quasiment, de 97 milliards de dividendes qui ne vont pas au salaire, mais qui vont aux actionnaires qui prennent des risques. Donc là, en prenant des risques, en achetant un média comme aujourd'hui en France, le Parisien, Macron ouvre un nouveau chapitre. Alors, ce n'est pas une démission. Elisabeth Borne voulait rester. Hein. Elle est juste poussée à la sortie parce que Macron ne peut plus la blairer. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ce n'est pas comme ça que c'est expliqué. Autre une, Borne s'en va, une nouvelle page s'ouvre à Matignon, ça c'est le Figaro, avec, regardez, oh, mais qui est derrière Elisabeth Borne ? Oh là là, ce message subliminal, serait-ce Gabriel Attal qui va la remplacer ? C'est extrêmement bien fait, non ? Ouais, bon. Alors, il ne voulait pas l'annoncer hier, généralement, ça s'annonce avant le journal de 13h, un nouveau gouvernement, donc on sera là, hein, peut-être que la revue de presse va s'arrêter. Mais surveillez les réseaux du Monde Moderne, on sera là pour commenter le nouvel gouvernement avec vous. Ça va être une grosse journée d'infos, donc on va suivre ça avec vous. Gabriel, Born Out, ça c'est Libé qui fait dans le Libé, un titre facile hein, finalement, en disant qu'elle s'en va. 20 mois après son arrivée à Matignon et après 23-49-3, l'opinion, Macron ouvre le chantier de l'après-Born. Alors c'est un chantier, hein, on n'est plus dans la page, le chapitre, on est dans le chantier. Bon. On est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de la proto-monarchie, hein, c'est-à-dire qu'un homme, élu au suffrage universel, avec toute la mauvaise foi qui va avec, hein, décide de tout pour des millions de Français. Bon, moi, ça ne me convient pas personnellement, et j'appelle pas ça une démocratie extrêmement fonctionnelle, mais c'est comme ça qu'on a choisi la démocratie représentative. Ça devient quand même catastrophique quand on a affaire à une personnalité toxique. Il faut voir Anna Cabana qui expliquait sur le plateau de BFM comment Emmanuel Macron avait pris plaisir à inviter tous les ministres qui allaient être virés lors du précédent remaniement en les traitant avec déférence à l'Élysée, en disant « ça va toi les enfants ?» avant de les virer. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du manager toxique, du petit chef un peu foireux, mais il est à la tête de l'État, c'est terrible. Borne, par ici la sortie, ça c'est la Marseillaise, avec Gabriel Attal pour lui succéder. Donc bon, tout le monde a bien récité la leçon de l'AFP. Gabriel Attal pour succéder à Elisabeth Borne, serait-ce Gabriel Attal ce matin? C'est partout, hein. La dépêche, succession de Borne, alors direct Attal favori. Donc clairement, si c'est pas Gabriel Attal, c'est qu'il y a un gros couac. Et ce gros couac, ça pourrait être l'ire, la colère de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, deux ministres de poids qui se voyaient bien à Matignon et qui, selon Paul Larotou, journaliste de LCI et TF1, auraient bloqué hier, hein, auraient tout fait pour empêcher la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Alors, ensuite, le journaliste a rétropédalé en disant que ce n'était pas du tout le cas, qu'on ne pouvait pas vraiment dire ça, mais toujours est-il que c'est clairement Gabriel Attal qui succédera sans doute à Elisabeth Borne, sauf surprise de dernière minute, mais là, tous les journaux du matin le disent. Donc, a priori, le qui pour lui succéder avec quand même Gabriel Attal sur la photo, bon, on pense que tout le monde a l'info, on attend juste que ce soit dit sur le perron de l'Élysée ou qu'un tweet d'Emmanuel Macron intronise le jeune ministre de l'Éducation, Premier ministre. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un Premier ministre, bah, c'est plus rien aujourd'hui avec les réformes successives de la 5e. C'est quelqu'un qui n'est plus vraiment une institution de contre-pouvoir, c'est juste un ministre de plus qui est là pour gérer les ministres qui servent finalement à faire de la com. On est rentré dans l'ère de la communication politique. Il n'y a plus vraiment de politique, c'est de la communication d'abord, d'où le choix de Gabriel Attal qui plaît aux vieils électeurs macronistes de droite, mais aussi aux jeunes, parce qu'il a fait le SNU, mais aussi aux Français abreuvés à BFM et LCI, qui vont se dire « Ah oui, mais même CNews, parce que, ah oui, quand même, la baïa !» C'est quelqu'un qui va ratisser très large, qui peut aussi sauver Renaissance, qui n'existe plus quasiment, après la loi immigration, ou cette majorité difficile, hein, petite, très faiblarde d'Emmanuel Macron s'est divisé, hein, sur le problème de la loi immigration. Eh bien, Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui va pouvoir rassembler, qui va pouvoir faire de la com, c'est ce qu'il fait de mieux. Lui rêvait d'être acteur, il l'est, ça y est, il a été porte-parole. On le sait, lorsqu'il était porte-parole, d'ailleurs, il avait abondé dans le sens d'Emmanuel Macron dans sa politique odieuse du bouc émissaire, hein, en montrant du doigt les non-vaccinés, en disant que c'était à cause d'eux si tout allait mal, qu'il fallait aller les emmerder. Non, pas vraiment, parce qu'il défendait le président qui avait dit « j'aimerais bien emmerder une partie des Français, les non-vaccinés ». Et donc, il était là pour mettre en place cette politique du bouc émissaire avec envie, avec allant, avec talent même. Donc voilà. Ouais, alors, je vois que sur Facebook, il y a quand même beaucoup de spam. Donc je vais essayer de les bloquer les uns après les autres, mais je peux pas tout faire en même temps. C'est vrai que j'ai des modérateurs, en fait. Ah, Amadou Belem, récupérez votre mari pour tout problème de couple, infidélité du partenaire, retour d'affection, d'amour ou problème de grossesse. Veuillez contacter Papa Azé Alafia. Mais voilà grand-papa qui revient. Allez, Amadou, casse-toi, c'est monstrueux. Add blocklist, hop, et voilà. Salut et casse-toi. C'est impressionnant le nombre de spams. Facebook, c'est quand même la lead des réseaux sociaux. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Excuse-moi pour ce témoignage. C'est quelqu'un qui m'a fait plaisir dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, on sait mes occasions de Dieu. Ne se présente pas deux fois. Veuillez liser ce message jusqu'à la fin. Vous aurez la bénédiction. Apple, WhatsApp, c'était un cauchemar. Situation de divorce entre le père de mon garçon et moi. J'ai un enfant avec mon mari et on a passé plus de 16 ans ensemble à cause d'une malcompréhension. Mon mari et moi se sont séparés. Ah oui, ils se sont... D'accord. Il y a 3 ans déjà. Alors voilà, le docteur spirituel Pépé Toffa. C'est Pépé Toffa. Alors, on avait le grand-papa. Non, mais j'adore les marabouts. Non, franchement, c'est un truc que j'adore. Alors, et Gabriel Attal aussi peut faire revenir l'être aimé. Non, non, non. C'est grand-papa. Tu as besoin de quoi? Ah, dis-moi. Ouais, dis-moi, tu as besoin de quoi? Hey. Et voilà. Merci. Alors, cassez-vous, les michetonneurs, là, de Facebook. Arrêtez avec vos pubs. Oh là là, c'est insupportable. On n'en peut plus. Allez, je le vire aussi. Pépé Toffa, bon courage. Hein. Mais il y a des gens qui payent, c'est malheureux. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Mais ça me rend dingue. De voir que ça fonctionne encore. Des trucs comme ça. Bon, allez, on redevient sérieux. Excusez-moi, mais j'adore faire le marabout. En même temps, c'est... Certains d'entre vous peut-être se diront oui, il a raison. Alors oui, c'est la télé. On revient à la télé-réalité, hein, les Marseillais. Donc qui va succéder en deuxième saison à Elisabeth Borne? Pardon, voilà. Non, alors on était où? Voilà. Ou qui pour lui succéder? Ça, c'est Elisabeth Borne, hein, tout en Elisabeth Borne. Alors, Elisabeth Borne, toujours une vapoteuse à la main, des dossiers dans les mains et l'air très sérieux, voire triste, voire déprimé. L'abnégation, certains disaient qu'à la fin, il ne pouvait plus la supporter. Il, c'est bien sûr le meilleur président que la France n'ait jamais connu, notre leader suprême Emmanuel Macron, un conseiller gouvernemental. Alors, ils sont tellement nombreux, ces conseillers gouvernementaux. Voilà. Alors... Lundi soir, ça c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Si vous nous rejoignez, c'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est sur YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner et puis mettre des likes sous les vidéos ou les partager. Merci à vous. Lundi soir, d'autres s'interrogeaient néanmoins encore sur son profil. Attal, c'est l'archétype du macronisme. Jeune, plein de certitudes et d'ambition. Un loup solitaire aussi. Ça peut vite agacer. Alors, l'archétype du macronisme, c'est jeune, plein de certitudes et d'ambitions, surtout vide. Quelqu'un qui est passé quand même 10 ans au PS, qui était d'ailleurs proche de Benjamin Griveaux à l'époque, en couple avec Stéphane Séjourné, ils se sont séparés. Il y a eu des rumeurs cet été comme quoi il serait en couple avec Olivier Véran. On ne sait pas qui est son partenaire. Mais toujours est-il que Gabriel Attal, c'est l'ambitieux absolu. C'est quelqu'un qui allait très vite. Hein. Quand je vous dis l'an dernier au Bilderberg, à son âge, c'est assez exceptionnel. Donc qu'il soit Premier ministre, ça n'étonnera personne. C'est pour battre le record de Fabius. Et comme Macron n'aime pas du tout Fabius et que les deux ont en horreur l'un et l'autre, eh bien il va simplement enlever Fabius des livres d'histoire en disant « Non, le plus jeune Premier ministre, c'est pas Laurent Fabius sous Mitterrand, c'est Gabriel Attal sous Macron. » Voilà, c'est tout ce qui restera des deux quinquennats, peut-être. Toujours est-il, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est de la cour de récré, mais c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Alors, ça c'est le macronisme, hein, un petit chef, néo-manager toxique, qui va virer des gens avec qui il ne peut plus s'entendre pour mettre des gens qui lui doivent tout et qui vont obéir pour leur carrière et qui sont prêts à tout avaler, un peu comme l'a fait Elisabeth Borne, hein, mais elle savait qu'elle avait une durée de vie très limitée au gouvernement, seulement voilà. D'autres pointent la carrière fulgurante du probable promu. Resté à peine 5 mois rue de Grenelle. 5 mois, tu fais rien. Il n'a fait que de la com. Quand je vous dis qu'on est rentré dans l'ère de la communication politique, c'est une réalité. Ces gens-là ne font pas de la politique. Ils font de la communication, des coups bas et au mieux une carrière. Hein, un coup dans le privé, un coup dans le public pour essayer de monter les échelons du pouvoir. Darmanin en est un autre archétype. À droite, cette fois-ci, lui, c'était le protégé de Nicolas Sarkozy, d'une certaine façon. Avec les LR, il a fait à peu près la même carrière que Gabriel Attal avec Renaissance. Sauf que Renaissance étant ce qu'il est, Attal a pu aller beaucoup plus vite. Donc 5 mois, 1 an à Bercy, où il n'a pas fait grand-chose. Des sauts de puce dans ses précédents ministères. Le SNU, bien sûr, on lui doit le magnifique uniforme du SNU. Sacré Gabi. Qu'est-ce que j'ai mis? D'ailleurs, en hommage. Voilà, on va mettre la casquette. Ah, putain, on dirait ACDC. C'est Gabriel Attal. Pardon. Et une des grandes causes de ce second quinquennat, c'était l'éducation. Mais l'éducation, tout le monde le sait, c'est Emmanuel Macron et Brigitte qui décident à peu près de tout. Et donc, Gabriel Attal était là pour dérouler le plan de com'. Il rêve de rééditer l'exploit de Macron en 2017. Attention, à ne pas brûler les étapes, alerte un homologue du gouvernement. Oui, parce qu'il va créer des jalousies, évidemment, avec tout ce succès, la façon dont il a cette désinvolture avec laquelle il passe les étapes les unes après les autres, la rapidité de son ascension, bah, ça crée des jalousies, notamment du côté de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, comme ça a été montré, ou du moins évoqué hier. Alors, il y a des bugs, d'accord. Ouais, oui, c'est long, ça fait 10 ans, c'est comme un septennat de Mitterrand, plus long, c'est vrai. C'est assez long, je ne vous cache pas que pour certains, c'est même très très long. Alors, Macron, lui, ne voit pas où est le problème. Évidemment, c'est lui qui décide de tout, et Gabriel Attal, lui, doit tout. Donc c'est formidable pour Emmanuel Macron. Pour la première fois depuis 2017, il donne le sentiment de se désigner un successeur, le dauphin. Enfin, il désigne celui qui sera digne de lui succéder. Et non, ce n'est pas Édouard Philippe, non. Et non, ce n'est pas Elisabeth, non. Non, ce n'est pas Jean Castex non plus. Et ce n'est pas François Bayrou qui décidément... Alors, encore un michetonneur, papa, grand-papa, machin, que je bloque. Je les bloque au fur et à mesure, excusez-moi, j'ai pas de modérateur. Il donne le sentiment de se désigner un successeur, donc décrypte un conseiller. Attal, c'est une nomination très politique. Non, c'est une nomination très marketing. C'est du marketing. C'est pour choper des parts de marché chez les électeurs de droite, chez les électeurs macronistes qui ne savent plus où ils habitent, garder un peu des gens qui viennent du PS et qui se disent « Ah oui, mais Gabriel Attal, il vient du PS, donc on peut peut-être encore lui faire confiance. » C'est uniquement ça. C'est une déclaration de guerre à Édouard Philippe. Oui, clairement. Il va aussi un stratège de l'exécutif. Fin novembre, dans C'est à vous, sur France 5, vous vous rappelez, quand il les a invités à l'Élysée pour faire un blabla, il lui rendait même un hommage appuyé. Non pas à Édouard Philippe, mais à Gabriel Attal. Quand je l'ai nommé à l'Éducation nationale, je l'ai fait en sachant que j'avais un responsable politique qui avait l'énergie, le courage pour mener les combats nécessaires. Un quasi-adoubement. Je lui dois absolument tout, c'est ce que dit Gabriel Attal d'Emmanuel Macron. Voilà, donc... Les choses sont claires. Et puis, alors, c'est cette chose dont on ne parle pas assez, mais le groupe Bilderberg, c'est pas conspi, il faut en parler, c'est un groupe d'influence extrêmement puissant où vous avez le patron de Palantir, le patron de la CIA, les Américains et leurs amis qui se réunissent une fois l'an avec des gens sélectionnés pour parler en toute liberté puisqu'il n'y a pas de retranscription des débats, contrairement à Davos où les débats sont publics, et où on va décider de qui, enfin on décide pas, mais clairement une fois que tu es rentré dans ce cénacle, tu sais que ton avenir est tout tracé à partir du moment où tu restes copain avec les États-Unis. Donc c'est un groupe d'influence atlantiste, extrêmement puissant, qui a fait passer Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, c'était l'an dernier, mais d'autres, hein, y compris des journalistes, François Langlais, qui vont participer à ce Bilderberg pour voir et rencontrer hein, ce mix assez étrange de gens très haut placés dans le renseignement, des militaires, des politiques, des anciens politiques, des économistes, des milliardaires, tout ça pour se voir et rester copains. À Davos, c'est public, au Bilderberg, seul l'agenda est public et on y parle à peu près tout le temps de la même chose, c'est-à-dire les risques dans le monde, la montée des extrêmes, le risque russe ou chinois, et puis tout le reste n'est pas évoqué. Voilà comment ça fonctionne. Mais quand on en parle, soudain arrive un voile qui fait peur, comme si c'était un tabou, comme si c'était complotiste de parler du sommet du Bilderberg. Pas du tout, c'est important d'en parler parce que les gens qui sont passés au Bilderberg ont tous eu une carrière toute tracée dans leur pays respectif. Donc c'est important de montrer où est le pouvoir, et ce pouvoir-là, eh bien, il est donné et conféré à ce jeune premier Gabriel Attal qui se rêvait acteur et qui va peut-être être Premier ministre ce matin. Voilà, rien de mal donc à évoquer ces sujets avec vous, bien au contraire. Bruno Le Maire, lui, a bien du mal à exister médiatiquement dans ce maelstrom où nous ne parlons plus que d'une personnalité politique, et je parle là de Gabriel Attal. Non, Bruno Le Maire, il faisait ses vœux hier à Bercy, mais il joue le temps long. Il sait que l'Élysée lui tend les bras. Telle une femme farouche, allongé sur un canapé qui ouvrirait ses cuisses et lui montrerait soudain un pays. Oh, Bruno ! Oh oui, pardon. Vous savez, il est écrivain, Bruno, donc parfois il Là, il est ministre à Bercy, donc il a fait des vœux très sérieux en disant que si on veut y arriver, il va falloir trouver 12 milliards d'économies. Alors, comment ? Alors ça, c'est, il le dit tout le temps, péniblement, sur le budget passé en 49.3, la minorité présidentielle a trouvé 2 milliards d'économies. Pour les 10 milliards restants, 12 milliards donc à trouver, ça va être les coupes budgétaires sur quelques aides données aux entreprises, notamment sur la formation, et surtout les profs. Eh ouais, il y a trop de profs. Je sais, si vous avez des enfants et qu'ils sont dans le public, vous... Non, il n'y a pas trop de profs. Mais non, pour la Macronie, il y a trop de profs. Donc, il va falloir couper vraiment dans les dépenses. Et là, Bruno a trouvé, c'est les profs. Parce que la natalité n'étant plus ce qu'elle est, d'ici une vingtaine d'années, il n'y aura pas besoin d'avoir autant de profs. Et puis, en plus, on pourra faire cours à distance. Et puis, oh, ça va. Hein, l'idée étant de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'argent pour les services publics, de dévoyer, de vendre les services publics. La loi européenne sur les barrages, d'ailleurs, qui va faire en sorte que nous allons privatiser ces joyaux que sont les barrages hydroélectriques, et tout le reste. En réalité, on est en train de, avec ce personnel politique, de solder ce qui reste de l'État. C'est pas parce qu'on a François Bayrou qui est haut commissaire au plan qu'on a un plan. Hein, vous aurez remarqué, le seul plan, c'est que le haut commissariat au plan a des bureaux à Pau. Et à Paris. Et ça tombe bien parce qu'à Pau, François Bayrou est maire. Donc ça, c'était le plan, qu'il ait des grands bureaux à Paris et à Pau. Pour ce qui est du reste du plan, il y a quelques rapports qui ont été pondus, ça et là, mais je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de plan. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne fait qu'improviser, comme on le voit ici avec ce changement ministériel qui est tout en communication. Voilà, donc 12 milliards d'économies, les profs, donc, et il y a une mission qui va être lancée. Alors, je ne vous cache pas que le titre peut faire peur. Une mission d'information sur l'impact des dispositifs sociaux et fiscaux sur le reste à vivre des travailleurs de la classe moyenne va être lancée dans les prochains jours. Ça va être piloté par le député Renaissance Mathieu Lefebvre, chef de file des macronistes à la commission des finances de l'Assemblée. Voilà. Donc ça s'appelle « L'impact des dispositifs sociaux et fiscaux sur le reste à vivre des travailleurs de la classe moyenne ». En gros, c'est comment vous allez prendre cher. Mais tout ça avec le sourire, parce qu'il faut se débrouiller dans la vie. Et oui, il faut la valeur travail. France Travail, c'est là pour faire des diagnostics, hein, pour t'expliquer comment tu vas aller travailler très loin de chez toi sur un secteur qui n'est pas du tout le tien, parce que sinon, tu n'auras plus d'aide. Voilà. Ça s'appelle donc l'impact des dispositifs sociaux et fiscaux sur le reste à vie des travailleurs de la classe moyenne. Macron appelle ça, bah, ça coûte un pognon de dingue, puis ça ne marche pas. Voilà, donc c'est le pognon de dingue qui ne marche pas. Donc le pognon d'un qui ne marche pas va donc être tiré, et puis c'est fini. Et puis, de la start-up à succès au burn-out, un témoignage, c'est un peu l'histoire de la Macronie. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, c'est la start-up triomphante, hein, l'État entreprise, mais entreprise tech innovante. Et aujourd'hui, c'est le burn-out total avec Elisabeth Borne, hein, qui a été la dernière à être rincée. Et on veut se relancer avec ce jeune chef d'entreprise, Gabriel Attal, qui va sans doute faire un marketing exceptionnel. Sur Borne, on y revient. Voilà ce que dit une ministre d'elle. Elle a un côté Jeanne d'Arc. Elle terminera peut-être cramée pour la France, mais c'est très honorable. Ils ne sont pas nombreux à y être prêts. Alors, cramée pour la France, moi, ça me rappelle un peu Sibeth Ndiaye quand elle avait dit « la meuf est dead » en parlant de Simone Veil, quand elle était morte. Là, quand même, Jeanne d'Arc est cramée pour la France. Une ministre. Alors, on sait que c'est une ministre. Moi, je penche pour Prisca Thévenot. Du SNU. Sinon, ça aurait été Marlène, mais il n'y a plus Marlène. Il n'y a plus Marlène. Peut-être qu'elle va faire son retour au gouvernement. Non, elle a dit que non. Quel dommage. Ah ! Enfin ! Le Figaro parle de la colère des agriculteurs en Allemagne. C'était énorme. Hier, une énorme journée de mobilisation des agriculteurs outre-Rhin. Contre le gouvernement d'Olaf Scholz. Alors vous aurez remarqué, hein, que ce soit Olaf Scholz, Rishi Sunak, Justin Trudeau, Emmanuel Macron ou d'autres, les leaders du camp otanesque européen sont mal aimés. Pour ne pas dire impopulaires, pour ne pas dire haïs. C'est un pattern, une sorte de... C'est comme ça que ça fonctionne. Alors hier, ils étaient des milliers dans la rue à défiler, agriculteurs, mais pas que. aussi des Allemands de la classe moyenne qui en ont ras-le-bol des politiques de Scholz qui ne font que les appauvrir. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'est la même politique que chez nous, c'est la même politique qu'au Royaume-Uni ou qu'au Canada. C'est partout pareil. C'est la guerre contre la classe moyenne. C'est la guerre aussi contre le bien-vivre avec des mesures toujours plus difficiles pour sauver la planète. Là, il est question en Allemagne d'enlever l'aide sur le diesel agricole. C'est plus de 2 000 à 3 000 euros par établissement agricole. Et les agriculteurs ont dit, on en a marre. On ne fait que payer. Le tracteur électrique, aujourd'hui, n'a pas fait ses preuves. Et puis, ça coûte très cher. Et puis, on n'en est pas là. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Ils descendent dans la rue. Ils sont soutenus par de nombreux Allemands de la classe moyenne. Et ça vous rappelle évidemment les gilets jaunes. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Figaro et la presse allemande. Vous allez voir, on se croirait en France. Alors, il y a d'ailleurs un des ministres de Olaf Scholz qui a été empêché de rentrer chez lui. Il était en week-end avec sa famille et le ferry qu'il devait prendre a été pris d'assaut par des agriculteurs. Ça a choqué bien sûr toute la classe politique qui a été indignée. Son parti est composé d'électeurs à haut revenu ou de fonctionnaires qui ne vivent certainement pas dans le besoin, contrairement aux chômeurs qui, eux, sont rackettés. S'indigne Birgit, une citadine berlinoise qui est venue manifester sa solidarité envers les agriculteurs. Et puis, un professeur d'allemand met en doute la légitimité des élections. On est en plein dans le même schéma qu'en France, c'est-à-dire des gens qui se sentent dépossédés, en fait, du pouvoir démocratique d'élire un gouvernement représentatif. Des gouvernements qui ne représentent qu'une infime partie de la population, les gens qui vont bien, qui n'ont pas de soucis. Les gens qui pensent que ça va pas péter. Parce que péter, c'est pas forcément une guerre civile, on n'en est pas là. Et heureusement, mais on a eu les émeutes en juin en France, ça montre déjà. Et puis on a tous ces mouvements sociaux, parce que ça c'est un mouvement social aussi en Allemagne, de gens qui n'en peuvent plus en fait de payer des impôts et qui n'ont pas les services publics à la hauteur. L'état de l'hôpital en France, c'est inacceptable. Mais Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, démissionne, non pas pour l'état de l'hôpital, du fait des politiques de droite et de gauche depuis des années, mais parce qu'il y a une loi immigration qui a été votée à l'Assemblée nationale et qu'il est contre. Donc on est vraiment là dans un schéma qui est le même à peu près partout en Europe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est la presse allemande qui parle de ce mouvement, et vous allez voir, on se croirait en France également. Pour l'hebdomadaire Der Spiegel, classé à gauche, ainsi que pour de nombreux politologues, le mouvement des agriculteurs est récupéré par les franges extrêmes de la politique et les mouvements conspirationnistes. Les extrémistes, les séditieux, les conspirationnistes, c'est les gilets jaunes. C'est à peu près la même sémantique, les mêmes accusations pour une révolte populaire, pour un ras-le-bol populaire qui dit simplement « on en a marre, on veut savoir où va le pognon et pourquoi vous passez votre temps à nous faire des lois qui nous emmerdent ». Alors je le dis comme ça, c'est très mal dit, mais c'est comme ça. Nous devons partir du principe que les extrémistes de droite infiltrent les manifestations afin de s'en prendre à l'État et de diffamer certains responsables politiques. Enfin, ça remonte à loin. Ursula von der Leyen, par exemple, était ministre de la Défense d'Angela Merkel. Elle a été exfiltrée pour éviter d'avoir à répondre à une enquête pour soupçons de corruption, de conflit d'intérêts avec les cabinets de conseil, dont McKinsey, lorsqu'elle était à la Défense. Et elle a été placée à la tête de la Commission européenne avec l'aval, le soutien, l'appui, l'aide, la proposition d'Emmanuel Macron. Et depuis, on vit dans ce mensonge. Voilà. C'est assez terrible. Ça, c'est une ministre de l'Intérieur qui dit ça, c'est le Gérald Darmanin de là-bas. En visite dans une région inondée de l'est du pays, Olaf Scholz avait été conspué et traité de traître à la patrie, une expression familière à l'extrême droite. Alors non, vous voyez bien que c'est à peu près la même chose que les gilets jaunes. Et c'est bien que le Figaro parle de ce mouvement des agriculteurs, mais c'est pour expliquer qu'attention, c'est un mouvement d'extrémistes, de séditieux, de fascistes et d'antisémites. Exactement comme pour les gilets jaunes. Tous ces mouvements de protestation, qui sont réels, qui sont ancrés dans le réel, qui sont par des gens qui n'en peuvent plus, qui voient leur pouvoir d'achat s'amenuiser, qui voient la paupérisation arriver, on est là. On est à ce niveau-là, en fait, en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne. Il n'y a pas eu de grands mouvements, il y a eu des grandes grèves pour le pouvoir d'achat en Grande-Bretagne, mais encore, ça n'a pas été très couvert. On fait comme si tout ça n'existait pas, ou comme si c'était des mouvements de déstabilisation de l'État ou des pouvoirs en place. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, je le crains. Alors, c'est bien. Merci au Figaro d'avoir fait l'effort de parler de la manifestation des agriculteurs outre-Rhin. Maintenant, faites l'effort de parler de la manifestation des agriculteurs en France. Alors, là, c'est assez incroyable. C'est Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense. Donc, c'est le ministre de la Défense, si vous voulez, des États-Unis. Voilà à quoi il ressemblait pendant le Covid. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Ça, c'est Lloyd Austin avec toutes ses médailles, son masque et son petit truc devant les Marines. Oui, on se croirait dans Star Wars. Oui, oui, l'Empire américain va mal. Et alors, ce fameux Lloyd Austin, que vous voyez là à l'image, a disparu. Alors, il a eu une opération bénigne. Il n'a pas voulu dire ce qu'était cette opération avant Noël. Manque de peau, ça s'est compliqué. Il y a eu des complications suite à cette opération. Et il a disparu du 1er au 4 janvier sans donner de nouvelles à personne. Ni à Joe Biden, ni à son cabinet, ni aux membres de son cabinet. Personne ne sait dans quelle clinique, ni où il était pendant 4 jours. Il a disparu des écrans radars. Alors, ça pose des questions. Ça commence à inquiéter. Évidemment, démocrates essayent de minimiser le problème. Les républicains s'engouffrent dans la brèche en disant ben, « on ne peut pas faire confiance à un gouvernement avec des gens aussi peu fiables ». Et c'est le début, ça y est, c'est parti, de la campagne présidentielle aux États-Unis. Ça va être une année incroyable à suivre pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Quand même, quand on voit l'état de ce pays, avec ce ministre de la Défense déguisé tel un personnage de Star Wars, ça pose question quand même. Vous voulez qu'on parle du bilan d'Emmanuel Macron ? Oui ! Vous voulez vraiment qu'on parle du bilan de ce qui s'est passé l'an dernier, par exemple ? Eh bien, en 2023, oui, la France était clairement sous le signe de la violence et de l'insécurité. Alors, d'habitude, on nous dit que les chiffres, c'est bien, ça va dans le mieux, parce qu'il y a moins d'homicides, il y a moins de trucs, enfin, c'est quand même mieux, etc. Là, c'est le Figaro qui nous montre que, bah, oui, mais non, en fait. On ne peut pas parler non plus on a le conspi, hein, en ce qui concerne le Figaro, c'est un titre, un quotidien national de référence. Homicides et coups et blessures sont en hausse. Des agressions graves. On l'a tous remarqué. Il y a eu bien sûr le débat sur l'assassinat de Thomas Crépol. Il y a eu tous ces débats hein, sur l'insécurité, les aînés, hein, toutes ces femmes âgées qui se faisaient agresser dans les établissements avec l'idée de dire bah, « En fait, on ne peut pas dire que ça va bien quand ça va si mal. » Voilà les chiffres. Alors, les violences sexuelles en hausse de 7%. Sachant que c'était quand même une des priorités du quinquennat de lutter contre ça. Les escroqueries en hausse de 6%, coups et blessures volontaires en hausse de 6%. Les homicides, 948, hausse de 6% également. Les vols de véhicules, les vols dans les véhicules. Le cambriolage aussi, des logements, tout ça augmente. Ce qui baisse, c'est l'usage des stupéfiants. La destruction et les dégradations volontaires. Étonnant hein, quand on a vu les émeutes de juin. Les vols sans violence contre les personnes. Les vols d'accessoires sur véhicule et les vols violents sans armes, tout ça ont baissé. Mais sinon, la violence, oui, a augmenté. Sont des chiffres qui devraient inquiéter les responsables politiques, mais ils sont tout occupés au remaniement et à leur choix de carrière personnelle plutôt qu'à s'occuper des problèmes des Français. Donc, c'est comme d'habitude. Une pensée pour Mayotte, parce que les habitants de Mayotte vivent sans eau depuis maintenant des mois. Et là, le ras-le-bol est tel que des habitants et une entreprise portent plainte contre le syndicat des eaux de Mayotte, qui est une filiale de Vinci, tout simplement en expliquant que c'est un risque immédiat de mort ou de blessure du fait de l'inaction de ce syndicat des eaux. C'est le département le plus pauvre de France, avec une sécheresse importante en ce moment. Un manque d'infrastructures et d'investissements, évidemment. Les Mahorais ont été laissés seuls, à l'abandon, tout simplement, on n'en parle pas. Le plan du gouvernement, ça avait été un plan Marshall pour Mayotte. Ça, c'était la promesse de septembre. Ce qu'a été le plan Marshall, ça a été la distribution de bouteilles d'eau et la prise en charge des factures d'achat. Ça n'a pas suffi. L'eau reste boueuse, contaminée par de la matière fécale. Elle est impropre à la consommation. Et à Mayotte, on continue de se battre pour l'eau. Avec ce plan Marshall qui était donc un plan marketing pourri, comme d'habitude. Voilà, donc grosse pensée aux habitants de Mayotte qui sont laissés, hein, encore une fois, à l'abandon par ce gouvernement et qui n'ont pas d'eau. Et on va reparler des bouteilles d'eau en plastique. Vous allez voir, quand vous buvez de l'eau dans une bouteille d'eau en plastique, vous buvez tout simplement du plastique. Une étude qui vient de sortir. Alors, il y aura une étude prochaine sur l'eau du robinet qui n'est pas non plus sans petit scorie, mais sur les bouteilles en plastique, c'est assez cocasse. Dans le rayon des bonnes nouvelles, et je sais que vous aimez les bonnes nouvelles à la revue de presse du Monde Moderne, alors n'hésitez pas à mettre des pouces, parce que c'est une excellente bonne nouvelle. Les pouces, c'est pour ceux qui regardent la vidéo sur Facebook ou YouTube, et puis partagez aussi, et abonnez-vous si vous pouvez le faire. Là, c'est génial, record des ventes de Rolls-Royce à l'international. La Rolls-Royce Spectre, qui est la voiture électrique de Rolls-Royce, se vend comme des petits pains, 400 000 euros la bagnole. C'est plus de 6000 véhicules qui ont été vendus. Alors, ce n'est pas les chiffres hein, en termes de nombre, puisqu'ils sont sur un segment ultra-luxe. C'est 11 de plus que l'an dernier. C'est États-Unis et Chine qui poussent le marché du luxe de la Rolls-Royce, et les Émirats, bien sûr. Voilà, il y a de plus en plus de riches, oui, et de plus en plus de pauvres. Mais on nous explique que le capitalisme est un système qui crée de la richesse partagée. Bon, oui. Effectivement, puisque pour les travailleurs de l'usine Rolls-Royce en Grande-Bretagne, oui, eux, ils peuvent travailler. L'usine n'a pas été délocalisée, même si Rolls-Royce appartient à une marque allemande. Décidément, Elon Musk, c'est l'homme à abattre en ce moment. Là, c'est carrément une fronde au sein de Tesla et SpaceX pour éveiller les actionnaires sur la consommation de drogue d'Elon Musk. Cannabis, champignons hallucinogènes, cocaïne, LSD, mais aussi kétamine, on dirait un sénateur français. Incroyable. Elon Musk est complètement drogué. D'ailleurs, il fait signer des déclarations de confidentialité lors de soirées où il prend ses drogues. Tout le monde a peur, en fait, pour la santé d'Elon Musk. Et le pire, c'est qu'il y a un accord d'entreprise qui fait que dans le règlement interne de Tesla, les employés doivent se présenter au travail et effectuer leurs tâches sans être sous l'influence de drogue illicite ou d'alcool, sans exception. Alors ça veut dire le patron aussi. Alors peut-être que quand il va travailler, il est sobre. En tout cas, le clan Musk, lui, nie tous les abus et les frasques du milliardaire, puisque ça pourrait évidemment mettre en péril son empire. Mais de tous les côtés, Musk est attaqué parce qu'il dérange sans doute, parce qu'aussi il est ouvertement soutien du candidat républicain à minima et peut-être même soutien de Donald Trump aux États-Unis. Et là, c'est la guerre qui commence entre les oligarques de là-bas, ceux qui sont pour les démocrates, ceux qui sont pour les républicains. Une histoire d'argent, de pouvoir, encore une fois. Et c'est vrai que Elon Musk eh bien voilà, est en ce moment sur la sellette. Alors, pas vraiment, puisqu'il s'est arrangé pour se protéger. Mais on voit bien que de tous les côtés, il reçoit les coups pour faire en sorte qu'il se calme. Voilà, qu'il se taise, qu'il obéisse. Alors là, c'est un article du Figaro qui va peut-être vous faire changer d'image sur l'Europe. L'Europe qui ne bénéficierait qu'aux Allemands. Non, vous allez voir, la France en profite également. L'Europe valide des aides d'État de Berlin. Alors, c'est quoi cette affaire ? L'Union européenne, en fait, a laissé passer par la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager et le ministre allemand de l'économie Robert Habeck une aide publique de 902 millions d'euros pour l'entreprise suédoise Nordvolt qui va construire dans une région allemande une usine de batteries pour véhicules électriques. L'idée étant qu'auparavant, l'Union européenne empêchait ce genre de mesures et l'usine du Suédois serait partie aux États-Unis où il avait davantage d'aide à l'installation ou en Chine ou ailleurs. L'idée, c'est de réindustrialiser petit à petit l'Europe et donc de dire « c'est pas grave, oui, vous avez le droit d'aider publiquement une entreprise européenne à vous installer chez vous pour qu'elle fasse du business chez vous, pour que vous ayez des emplois chez vous. » Très bien, avec des aides. Bruxelles a donné aussi son accord à un dispositif d'aide français, tenez-vous bien, de 3,9 milliards d'euros, c'est du crédit d'impôt, pour la production de panneaux solaires et de batteries d'éoliennes ou la fabrication de composants pour les équipements. Voilà. Donc ça, c'est en France où ça se passe et en Allemagne. Aux États-Unis, vous avez l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui fait que les entreprises étrangères sont incitées à s'installer aux États-Unis. Ça s'appelle la guerre commerciale, elle est terrible. Et donc, pour contrer l'IRA, l'Europe valide des aides. Les aides, c'est notre argent, hein, c'est les impôts, pour que des entreprises créent des emplois dans nos pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les investissements, on est sur 760 milliards d'aides d'État approuvées depuis le printemps 2022, au bénéfice de la France et de l'Allemagne, qui ont le plus, finalement, de ces aides européennes. Donc, nos impôts servent à créer des emplois dans nos pays avec l'aide européenne qui saupoudre un peu à droite à gauche pour être sûr que ça fonctionne. Donc, quand vous avez 760 milliards d'aides d'État approuvées depuis le printemps 2022, vous voyez que pour Ursula, 50 milliards pour l'Ukraine, c'est rien. C'est rien du tout. L'idée, c'est de protéger l'économie européenne ou les économies européennes avec de la finance publique, de l'endettement. Hein, c'est de l'argent magique, en quelque sorte, pour faire en sorte que les emplois restent en Europe. Alors, on ne peut pas critiquer ces mesures-là, mais elles ont leurs limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que le Suédois va dire « bon, ben, on arrête, on part ailleurs ». Et puis, la filière électrique verra peut-être sa fin avec les limitations technologiques et le fait qu'une fois que l'aide s'arrêtera, eh bien, tout ça s'arrêtera également. Donc, c'est du court terme, mais ça fonctionne. C'est comme ça que l'Union européenne est défendue par les uns et les autres. De par chez nous, mais aussi en Allemagne, où on bénéficie de ces largesses. Voilà. Ça, c'est une nouvelle très drôle. Ça se passe à Grenoble. Salut Antoine. Antoine qui sera avec nous demain et qui va revenir faire la revue de presse tous les vendredis pour votre plus grand plaisir. Les copains d'en bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une pièce de théâtre. Il a été financé, là encore, avec nos impôts, par la mairie de Grenoble, alors, les impôts des Grenoblois, on va dire. Et c'est une pièce qui explique comment vivre avec un point de deal en bas de chez vous. Sérieux. Comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. D'où le titre « Les copains d'en bas ». C'est les dealers d'en bas. C'est super sympa. Alors l'idée, c'est d'ouvrir la parole aux habitants des quartiers sur le fléau sont les points de deal. Et donc, c'est de la politique citoyenne. Certains ont dit que c'était une pièce qui faisait l'apologie de la drogue. C'est faux. Le maire de Grenoble et ses services se sont défendus de toute promotion du trafic de drogue et indiquent que le spectacle a été programmé avec le soutien de l'État via la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA. Elle assure que la pièce permet de libérer la parole sur les impacts négatifs du trafic dans un quartier. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est jouée à Grenoble. Mais ça fait débat quand même. Des habitants du quartier Saint-Bruno, alors les Grenoblois connaissent bien Saint-Bruno, hein, c'est là évidemment que tu vas acheter tout ce qu'il faut, l'ayant vu, se sont dit satisfaits de voir leur quotidien reconnu et exprimé. La ville l'a donc reprogrammé, puisque ce n'est pas la première fois que cette pièce a lieu. Et la mairie de Grenoble précise que ce spectacle intervient dans le cadre d'une action globale de lutte contre les trafics de drogue. La ville, en collaboration avec les services de l'État et la justice, travaille pour y mettre fin et retrouver la sérénité sur l'espace public. Quoi de mieux qu'une pièce de théâtre pour dire tout ce qui ne va pas. On avait fait d'ailleurs l'homme qui tue Muammar Kadhafi pour parler du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy 2007. Donc oui, oui, le théâtre sert à ça. Mais c'est vrai que ce titre, Les copains d'en bas, comment vivre avec un point de deal. Bon, ben voilà, c'est la ville de Grenoble. Si vous ne connaissez pas, c'est un truc, il faut y aller. Hein. Il y a du djembé, il y a des jongleurs, c'est la capitale mondiale du Rasta blanc, c'est Grenoble. Voilà, donc Saint-Bruno, très chouette, super. Bravo, bravo Grenoble. Et puis ça, il a neigé. Il a neigé à Paris. Et là, dès qu'il neige à Paris, 300 km de bouchons en 8 heures. Des gens coincés sur la 13, plusieurs centaines de personnes coincées dans leur voiture pour quelques flocons. Alors c'est sûr que quand tu vois ça de rien, tu te dis, waouh, ça, c'était... C'est quand même 300 km de bouchons pour quelques flocons. Non, la 13 était une patinoire, c'était ultra dangereux. Et c'est vrai que l'Île-de-France n'est pas équipée. Quand il tombe de la neige, tout s'arrête. C'est dingue. À chaque fois que la neige tombe sur Paris, t'as l'impression que, tu sais, c'est le blackout. On est tous là à se dire, non, mais va y avoir une attaque, un hack mondial de l'Internet. Non, non, il va neiger sur Paris, t'inquiète. C'est pareil. Tu pourrais faire un film avec Julia Roberts, tu sais. Genre, il a neigé sur Paris. Le monde après la neige. Le monde après le flocon. Bonjour. Oui, je suis coincé dans ma voiture depuis 12 heures. Je crois que c'est une attaque des Russes. Oui, c'est le Paris-Moscou, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, mais voilà. Génial. Allez, courage les Parisiens, vous allez y arriver. Anthony Blinken était attendu hier soir en Israël pour rencontrer Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens au sujet du génocide en cours dans la bande de Gaza. Alors, il ne va pas appeler ça un génocide, mais il vient plaider quand même pour une désescalade et discuter de la guerre dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il va voir Netanyahou, le président Herzog, le cabinet de guerre du pays, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, et puis Benny Gantz, de l'opposition. Voilà. Blinken a appelé déjà à protéger les civils, puisque le bilan dépasse officiellement les 23 000 morts dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas. Le secrétaire d'État américain veut parler de la direction que va prendre la campagne militaire à Gaza et insister sur l'impératif absolu qu'Israël en fasse plus pour protéger les civils. Pour ça, il faudra un cessez-le-feu, puisque chaque bombardement tue je ne sais pas combien de victimes innocentes, enfants et femmes et vieillards, et tous ne sont pas des terroristes du Hamas, loin de là. Sans compter les blessés nombreux et les vies ravagées, puisque une fois que vous avez perdu des membres de votre famille ou un membre, ou vous êtes blessé à vie, c'est votre vie qui est foutue. Donc tous ces gosses-là de la bande de Gaza, même après la guerre, leur vie est foutue. Ça se payera un jour ou l'autre, malheureusement. C'est quelque chose que le temps long va transformer en une autre horreur. La violence ne crée que de la violence. Malheureusement, ça continue. Et puis, sinon, vous savez que le Hezbollah a perdu un de ses commandants. C'était hier. Wissam Hassan Tawil a été tué dans une frappe israélienne. C'était au Liban, cette frappe a eu lieu. Alors attention à l'escalade. Aujourd'hui, Américains comme Iraniens ne veulent pas l'escalade dans la région. Donc c'est pour ça que Blinken est dans le coin. Les Israéliens veulent aller très vite pour faire en sorte qu'il n'y ait pas encore davantage de campagnes pour sauver des vies humaines et qu'il n'y ait pas non plus d'accusations de crimes de guerre, puisque c'est ce dont il est question maintenant dans la bande de Gaza au quotidien. Voilà, c'est l'horreur au quotidien avec des gens qui traite les vies humaines comme si c'était simplement des pièces de voiture, de rechange. Puis cette nouvelle, assez exceptionnelle, là encore. Oh, c'est étonnant! L'eau en bouteille en plastique contraindrait des milliers de particules de plastique. Comment ça? Tu veux dire que l'eau qu'il y a dans les bouteilles de plastique est pleine de plastique? Oui! Ah là, ça alors, je m'y attendais pas! Incroyable. Oui, bah il a fallu. C'est une étude scientifique. Hein, c'est quand même un truc. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que je me disais comme c'est des bouteilles en plastique. Non. Alors les résultats de l'étude montrent que chaque litre d'eau de bouteille en plastique contient entre 110 000 et 370 000 particules par litre. 90% sont des nanoplastiques. Le reste étant des microplastiques. Alors les microplastique, c'est 5000 micromètres, 5 millimètres. Les nanoplastiques, c'est moins d'un micromètre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve dans les échantillons. C'est le nylon, notamment, qui provient des filtres en plastique utilisés pour purifier l'eau. Ensuite, il y a le polytéréphtalate d'éthylène, le PET, qui est le principe des bouteilles en plastique. Donc, le plastique utilisé pour filtrer l'eau se retrouve dans l'eau. Et le plastique des bouteilles d'eau se retrouve dans l'eau. Et donc, quand vous buvez de l'eau d'une bouteille en plastique, vous buvez ces microplastiques et ces nanoplastiques. Le problème des nanoplastiques, c'est qu'ils rentrent, ils peuvent rentrer dans le sang en passant des membranes, aller dans le cœur, le cerveau, faire des AVC. Enfin, c'est quand même assez dangereux. Alors, les auteurs de l'étude disent que il faut quand même continuer de boire de l'eau, hein, si jamais vous avez soif, plutôt que de ne pas en boire. Une étude va arriver sur l'eau du robinet. Alors, le problème de l'eau du robinet, c'est qu'elle varie d'une région à l'autre, hein, d'un pays à l'autre, en fonction de la qualité du filtre, là encore, de l'état aussi des terres agricoles tout autour des lieux d'habitation. L'eau, c'est quand même un bien précieux. Hein. Jean-Claude Van Damme disait « c'est super, dans quelques années, il n'y en aura plus ». Mais si on n'en a plus ou si on passe notre temps à foirer l'eau avec des filtres en plastique et autres, on va y arriver. Le mieux étant de filtrer peut-être l'eau du robinet dans des carafes en verre avec des filtres à charbon ou autre. Vous avez chacun vos trucs. Si vous avez des trucs pour l'eau, on prend tous les conseils, puisque que ce soit en plastique ou au robinet, c'est quand même pas la qualité qui est au rendez-vous, malheureusement. Alors, il faut boire, hein, il reste le vin, me direz-vous. Oui, mais le... Oui. Oui, voilà. Le vin. Voilà. Le café. L'eau bouillie, je sais pas. Ben, voilà, une étude... Et puis, vous n'allez entendre que ça toute la journée. Ah, tous ces commentateurs incroyables des chaînes d'infos continues qui vont vous dire pourquoi les Français adorent Gabriel Attal. Non, les sondages font croire que les Français adorent Gabriel Attal. Ouf. Alors, parce qu'il prend des décisions. Et les Français ont le sentiment que ce pouvoir ne prend pas de décision, nous dit Franz-Olivier Gisberg. Alors Gabriel Attal ne prend pas de décision, il fait du marketing, de la com politique, en accord avec son chef Emmanuel Macron qui décide à peu près de tout pour sa carrière et pour lui. Et ça se passe très bien, et il le fait très bien, mais arrêtez de grâce de faire croire à ce cirque politico-médiatique aux Français. Ayez un peu le courage de raconter comment ça se passe, plutôt que de faire croire qu'il y a de la politique derrière ces plans de campagne marketing débile. Allez, c'était la revue de presse du Monde Moderne. On va se retrouver dans la journée, puisqu'il est question de nomination de grand chef du gouvernement de la France, du pays, de la République, d'Emmanuel Macron, dans quelques secondes, minutes, après l'épisode de froid qui a bloqué les Français et l'épisode d'eau qui a bloqué les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Bref, il y a aussi, je n'en ai pas parlé, mais... un plan logement d'urgence avec 120 millions d'euros débloqués pour l'hébergement d'urgence. Alors, c'est rien comparé aux 3 milliards débloqués pour créer de l'emploi. Mais peut-être qu'on va sauver des vies et éviter d'avoir des gens qui meurent de froid dans la rue. Ce serait bien, on a les moyens. Allez, je vous fais un petit diaporama des meilleurs moments d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal, puisque visiblement... C'est lui qui va succéder à notre regretté Premier ministre. Alors ça, c'est Elisabeth Borne. Ça met la patate. Ça, c'est Elisabeth Borne. Ouh, attention, 49-3. Ça, c'est Elisabeth Borne qui vapote à l'Assemblée. Ça, c'est Elisabeth Borne qui vapote à l'Assemblée. Ça, c'est Elisabeth Borne qui vapote sous son masque à l'Assemblée. Ouais. Sacré. Et ça, c'est notre futur leader, le jeune Gabriel Attal. Je sais que vous l'adorez. Regardez-le entouré de tous ces cadres du SNU, ces jeunes, habillés de l'uniforme de vigile de supermarché qu'il a lui-même designé quasiment, avec l'aide d'Emmanuel Macron. Regardez comme il était fier au milieu de tous ces jeunes macronistes prêts à obéir. C'est beau. D'autres photos de Gabriel Attal, toujours le SNU, avec Thibaut Inchep. Damn, la team shape. Incroyable, regardez comme ce t-shirt lui va bien. Ça, c'est Gabriel Attal avec une jeune fille qui fait le... Mais tu fais le SNU ? Oui, j'adore. Ça, c'est Gabriel Attal avant son relooking. Ça, c'est Gabriel Attal qui parle à des électeurs macronistes, avec le masque, faut pas déconner. Oui, je suis mieux que Macron, je fais tout pareil, mais mieux. Ça, c'est Gabriel Attal avec Olivier Véran. Cet été, ils étaient en vacances ensemble. Ça, c'est encore Gabriel Attal avec Olivier Véran. Ça pourrait être le... Imagine s'il arrive à l'Élysée et tout. Ça, c'est Gabriel Attal avec un gilet jaune. Non, c'est une visite d'usine. Alors, il a tout. Il a le casque, le masque, le gilet. Généralement, les ministres, quand ils vont visiter des usines, c'est la seule fois de leur vie où ils mettent un casque et où ils visitent un site de production. C'est la magie hein, du lundi, hein, d'Agnès Pannier-Runacher. Donc là, il l'a fait lui aussi, hein, quand il était à Bercy. C'est Gabriel Attal qui utilise un pouvoir d'hypnose auprès d'une électrice d'Emmanuel Macron. Oui, regardez, en fermant vos yeux, fermez vos yeux. Voilà. Je suis Emmanuel Macron. Oh, vous êtes aussi beau. Vous avez le même costume. Vous parlez pareil. Vous faites de la même politique. Je vous aime. Ça marche comme ça. C'est de l'hypnose. Faites pas ça chez vous. Salut à tous, je vis en France, ville Marseille. Moi, je témoignage... Attends, on a encore... Ah, ça, c'est Bois-Sagara, vas-y. Allez, c'est papa qui, là, vas-y. Attends. Je vis en France, Marseille. Tout le monde a des problèmes. Ton couple, ton chéri, ne t'aime plus. Il a changé subitement sans raison. Il ne prend bien pas ça de toi, il t'a abandonné sans raison. Tu as aussi des problèmes financiers. Veuillez contacter le vieux maître FIFA. Le vieux maître FIFA. WhatsApp, machin, putain, mais les brouteurs de Facebook. Eh ben, vous me faites ma journée à chaque fois, hein, franchement. C'est lamentable. Hop, allez, casse-toi. Le vieux maître FIFA, après Pépé Wembélé et grand-papa, quoi. Oh! Vous pouvez pas laisser les utilisateurs de Facebook tranquilles, où il n'y a plus que ça, en fait, des michetonneurs de... Incroyable. Regarde, papa, maître spirituel, Amonion. Ah, c'est Amonion. Hein. Alors, Ounoun Amonion. Disposition pour vous aider à trouver la solution à tous vos problèmes. Putain, tu te crois à la sortie du métro Barbès, tu sais, quand ils distribuaient toutes les cartes de marabout. Retour d'affection pour ton bien-aimé qui t'a quitté depuis des années. Dans 72 heures, consultation gratuite. Ah ouais, problème de mariage, retour d'affection, savon et parfum de chance. Retour d'amour, portefeuille magique. Ah ça, ça m'intéresse. Bonjour monsieur Amonion, qu'est-ce que c'est que le portefeuille magique? C'est un ministère pour moi? Non? Retour d'amour, 72 heures, immédiatement, évolution au travail, bague de protection, oui oui. Problème entre hommes et femmes, le portefeuille magique qui va te produire l'argent par jour. Le mec a trouvé le portefeuille magique de papa Amonion, qui te crée de l'argent par jour. Bédou magique. Alors le bédou magique, si quelqu'un peut m'expliquer, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Problème d'enfant. Contactez papa, maître spirituel Amonion, WhatsApp, machin. Les services se font à distance. Hein, et gratuit, payé juste après satisfaction. Voilà, c'est génial. Ben voilà, on a papa Amonion, là, c'est papa Attal. C'est pareil, c'est la magie. Allez, casse-toi. Ils sont géniaux quand même. Il n'y a plus que des marabouts sur Facebook ou quoi? Il fait quoi, Mark Zuckerberg? Il a un business là au Sénégal? Comment ça se passe? Non mais c'est impressionnant quoi. Ah là là. Allez, et puis pour finir, cette photo qui laisse perplexe. Hein, voilà, c'est tu es Emmanuel Macron. T'es à l'Élysée. T'as le choix entre une plante verte et Gabriel Attal pour Matignon. Bah oui, tu prends Gabriel Attal, oui, parce qu'à la plante verte, les gens sont pas prêts. Alors que Gabriel Attal, les gens sont prêts. Ah ouais, c'est un plan marketing, c'est super bien, c'est au cordeau, quoi. Voilà, donc entre une plante verte et Gabriel Attal, Macron a choisi, il a pris Gabriel Attal, on l'en félicite et on va sans doute s'amuser. Alors je dis qu'il a pris, on ne sait pas, mais ce matin, la presse était au diapason pour dire que oui, c'était lui, c'était Gabriel Attal. Alors on va le savoir dans quelques heures, même pas, peut-être avant le journal de 13h, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, on sera là. Au Monde Moderne pour commenter le nouveau gouvernement avec vous. Alors c'est dommage, avec Greg Tabibian, on avait commenté l'ancien gouvernement. Greg n'a pas sorti la vidéo, on avait fait ça avant Noël. Donc, plein de ministres que vous ne connaîtrez jamais. Et là, il y aura encore plein de ministres que vous ne connaîtrez pas, mais ça va être bien aussi, quoi. C'est super. Pendant ce temps-là, Julian Assange est toujours en prison. À Gaza, on continue de tuer des innocents en disant que c'est pour éradiquer le Hamas. Et la corruption reste toujours la règle numéro un des régimes en faillite. Allez, on se retrouve dans un instant. Je ne sais pas s'il y a eu des breaking news. Alert. Sinon, comme d'habitude, tu fais le 36-12. Tu appelles papa Alexis, grand-papa. Quel que soit ton problème. Comment ça, ton président? Tu n'es pas... Ça, je peux pas. Ça, il faut voter. Tu n'as pas d'argent? Ça, bah, il y a France Travail. C'est vachement bien. C'est dans 72 heures. Avec, un profiling super bien foutu. Qu'est-ce que c'est? C'est la moto qui démarre pas? Ça, je fais pas la mécanique. Non, ça, je fais pas la mécanique, en revanche. Qu'est-ce que c'est? C'est pour un poste de ministre? Non, Manuel, non, désolé, Manuel. J'ai déjà essayé pour l'Espagne, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher là. Je vais pas prendre la thune de ta meuf, c'est pas la peine. Qui veut quoi? Oui. Non, les poulets pas congelés. Je prends les poulets vivants. Voilà. Non, ça ne peut pas marcher avec du poulet congelé, ça, je vous l'avais dit, madame. Écoutez, madame Bettencourt, ça ne marche pas avec des poulets congelés. Oui. Comment ça, des procès? Vous avez des procès qui arrivent? Le temps des combats. Pour la justice, je vais voir avec grand-papa Moretti. Ça devrait pouvoir s'arranger. Ouais. Voilà. Bon, n'hésitez pas. Hein. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aussi, hein, tout simplement, donner 1 € pour le monde moderne. Et amour, justice, paix, argent, tout ça va tomber sur vous. C'est merveilleux. Grand-papa Alexis veille sur vous. Allez, on continue à faire ce qu'on fait de mieux, commenter l'actualité française avec un peu d'humour et d'ironie, un peu aussi de cynisme, mais aussi du professionnalisme. On se retrouve dans un instant pour commenter le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, s'il est Premier ministre. Sinon, ben, allez, à tout à l'heure. Ciao.
Encore